Chapitre 4. La belle saison était revenue. Les ceps de vigne avaient depuis longtemps fleuri sur le Kuchelberg. Les grappes de raisin se gonflaient et rougissaient. La première récolte de figues était proche et les deux pèlerins n'avaient pas encore reparu. Quand la vendange se fut passée, sans aucune nouvelle des fugitifs, presque tout le monde pensa qu'on ne les reverrait jamais. Et comme on ne pouvait deviner quel motif avait poussé André à s'enfuir du couvent, et qu'en général on s'intéressait médiocrement à lui, il ne fut bientôt plus question de cette histoire. 1000 conjectures avaient d'abord été faites. Le plus étrange de l'aventure n'était pas le pèlerinage simulé, car les Tyroliens ont un goût particulier pour ces sortes d'excursions. Mais comment expliquer qu'une heure seulement après la sortie du cloître, toute trace des jeunes gens eût pu être complètement perdue? Le chevrier du village les avait encore aperçus au moment où, s'entretenant avec animation, ils suivaient lentement un sentier de montagne. Le couple était assez remarquable, en effet, pour attirer l'attention, car le pâle novice au visage sérieux formait un singulier contraste avec la blonde et fraîche enfant qui marchait à ses côtés. Et cependant, quelques semaines après, quand, sur les instances du vicaire de 10 heures, on fit des recherches dans les villages les plus voisins, aucun aubergiste, aucun cultivateur ne se souvint de les avoir vus. La police du pays intervint sans obtenir de résultats plus satisfaisants. Un mystère impénétrable continua d'envelopper la disparition du frère et de la sœur. On eût dit que la montagne s'était entrouverte pour les recevoir dans ses retraites souterraines et les dérober au regard des hommes. Ces étonnantes nouvelles apportées au château de Goyen par le prêtre auxiliaire y firent naître les émotions qui avaient leur source dans les sentiments les plus opposés. Le vieux Yotzer avala tranquillement un verre de vin et dit qu'il se réjouissait fort de n'avoir plus à entendre parler de la maudite engeance des Ingram. Quant à Moïdi, si c'était cervelé, sa visette franchir désormais le seuil de sa maison, elle apprendrait qu'on ne jouait pas ainsi de lui. Il accompagna ses menaces d'imprécations que d'habitude il ne se permettait pas devant le vicaire de 10 heures. Puis il enjoignit à son fils de partir dès le matin suivant pour aller faire sa cour à une riche veuve du voisinage dont les terres situées près de Goyen pouvaient arrondir agréablement le domaine. Franz ne prit pas la chose avec autant de calme. Maria l'avait véritablement ensorcelé. Le sentiment qu'il éprouvait pour l'espiègle jeune fille était la seule passion qui eût jamais porté la flamme dans son indolente nature. Il répondit d'abord par un brusque refus à l'ordre de son père et pencha sa mauvaise humeur sur tout ce qui l'entourait, et chacun dans la maison eut beaucoup à souffrir de ses emportements. La tante Anna se retira pendant plusieurs semaines dans sa chambre et prit des vêtements de deuil, car elle était convaincue que les deux jeunes gens avaient péri, puisqu'ils ne s'étaient pas adressés à elle. Elle pleurait jour et nuit, et ne voulait voir personne à l'exception du vicaire et de Rosine. Avec sa résignation silencieuse, elle passait les heures en prière, égrenant un chapelet entre ses doigts pâles et amaigris. Sa nièce seule croyait fermement au retour des fugitifs et elle s'efforçait, mais en vain, de lui faire partager sa conviction. Quant au bon ecclésiastique, malgré son attachement pour son ancien élève, il paraissait fort calme. On lui dit que le bannissement volontaire d'André soulageait son cœur d'un grand poids. Il allait toujours assidûment à Goyen, écoutait chacun, répondait à tous avec bonté, et finissait ordinairement par amener la conversation sur un terrain moins dangereux. Les espérances des vignerons, la manière dont se présentaient les récoltes, sujet qui l'intéressait vivement et qu'il traitait avec une science profonde. Le mois de novembre s'avançait. La maison de Kichelberg restait toujours vide au milieu des vignobles. À ses pieds, dans la ville de Meran, le mouvement animé du marché annuel de bestiaux remplissait les rues étroites de bruit et de foule. Les derniers tintements de la sonnerie du samedi expiraient dans le clocher de la vieille église, et le vicaire de 10 heures, qui n'avait plus l'intention de sortir, venait de prendre son violon pour improviser un morceau à la faible lueur du crépuscule. En attendant que la servante lui apportât de la lumière en servant le repas du soir. Le chat faisait communément son ronron dans un fauteuil. Le feu pétillait dans le foyer pour la première fois de la saison, car la nuit semblait devoir être froide. Deux beaux pots de géranium, placés près de la fenêtre, exhalaient un doux parfum que l'ecclésiastique aspirait avec délice. Il marchait en mesure dans sa petite chambre, tirant du vieil instrument des sons plus mélodieux que ceux dont les oiseaux font retentir les bois. Son cœur débordait de reconnaissance envers Dieu qui lui rendait la vie si douce, et sa pensée se remontait avec satisfaction sur un présent que les religieux de Saint-Valentin lui avaient envoyé le matin même. C'était quelques bouteilles d'un vin généreux que les pieux solitaires recueillaient sur leurs coteaux ensoleillés et dont le vicaire se proposait d'arroser son modeste repas. En ce moment, on frappe à la porte, et persuadé que c'est la servante avec la précieuse liqueur, l'ecclésiastique s'écrie joyeusement « Entrez !» sans interrompre son improvisation musicale. Mais l'archet lui tombe des mains, car dans l'ombre qui s'avance, lentement, il reconnaît cet André que depuis longtemps on croyait mort. « Non, n'ayez pas peur, mon révérend, c'est moi, » dit le jeune homme. « Vous le voyez, le chat ne m'a pas oublié. Son poil se hérisserait si je n'étais qu'une apparition. J'aurais bien écrit pour annoncer mon retour, mais dans l'endroit d'où nous venons, il n'y a pas de poste aux lettres. » Il se pencha pour cacher son émotion vers l'animal qui le caressait. Son visage, son attitude respiraient une tendresse, une douceur mélancolique qui semblait le transformer complètement. Le vicaire était resté debout au milieu de la chambre. L'émotion couvrait ses tempes d'une sueur froide et sa stupeur était si grande que d'abord il garda le silence. « Et moi, dit, demanda-t-il enfin. « Oh, elle est ici !» Vous serez tout bon révérend, car je n'ai d'autre ami que vous, et si vous ne pouviez m'aider de vos conseils, je serais perdu dans ce monde et dans l'autre. » Les pas de la servante se firent alors entendre dans l'escalier, et tandis que la vieille femme, qui reconnaissait André avec une frayeur mêlée de joie, mettait le couvert, allumait la bougie et témoignait son étonnement par des exclamations incohérentes, les deux hommes avaient eu le temps de se recueillir et de se préparer à la conversation qui allait suivre. La servante tardait à se retirer. Elle aurait voulu faire bien des questions, mais elle était retenue par l'expression de gravité sévère qu'elle lisait sur le visage de son maître. Il avait pris place à table, s'essuyait le front avec son mouchoir, se versait d'un verre de vin qu'il oubliait de porter à ses lèvres, car il sentait l'avant-goût amer des paroles irritantes qui allaient être prononcées. André rompit le premier le silence. Vous m'excuserez, mon révérend, si je prends la liberté de m'asseoir. Oh, nous avons marché aujourd'hui 14 heures dans les montagnes. Ajoutez à cela mon angoisse et ma détresse en voyant la pauvre femme exténuée de fatigue et de besoin. Mes genoux ne veulent plus me porter. Oh, si vous saviez ce que nous avons souffert, vous ne détourneriez pas vos regards avec tant de sévérité, car vous n'avez jamais renvoyé aucun pécheur repentant sans encouragement ni sans consolation. Le vicaire parut ému de ces humbles paroles. Il leva son verre, en fit miroiter la couleur vermeille devant la bougie, avala lentement une gorgée, puis tendit le verre à son élève qu'il se hasardait pour la première fois à regarder en face. « Goûte ce vin, André, dit-il, cela te fera du bien. C'est du Valentineur de choix, je l'ai reçu ce matin même. » André prit le verre et, s'inclinant avec respect, il le vida d'un trait. « Je vous remercie, mon révérend, dit-il en le reposant sur la table. Mais la question que je viens vous adresser et à laquelle vous devez me répondre comme si nous étions devant Dieu est celle-ci. Maria Ingram, le Seigneur ait pitié de son âme. Est-elle oui ou non, ma mère? » En prononçant ces paroles, bon, il s'était levé car, malgré son état d'épuisement, il ne pouvait pas tenir en place. De ses deux poings fermés, il s'appuyait sur la table et ses yeux interrogeaient avec anxiété le vicaire qui ne s'agitait pas dans son fauteuil avec moins d'inquiétude. Mon fils, reprit-il enfin, oh, si tu me promets de ne pas m'interroger davantage, je répondrai à ta demande. Maria Ingram n'a mis au monde qu'une seule enfant, sa fille Moïdie. Maintenant, tu as appris ce que tu désirais savoir, alors tiens-toi en paix sur tout le reste, car mon obédience ecclésiastique me défend de rien révéler de plus, et d'ailleurs, cela te serait inutile. Les traits du jeune homme prirent une expression de désespoir. « Je vous remercie, répliqua-t-il, mais je savais déjà cela. Je l'aurais deviné quand personne ne me l'aurait dit. Je sentais bien que cette femme ne pouvait être ma mère, et je me consolais de ne pas avoir de famille, car si mes parents se passent de moi, je suis en état de me passer d'eux. Mais Moïdie, mon révérend, n'a de repos ni le jour ni la nuit. Elle croit que tout cela est une pure invention de la mère, qui m'a toujours détesté parce que j'aimais ma sœur. Non, non, vos paroles ne me servent pas plus qu'une lettre cachetée. Pourtant, il faut sauver la pauvre femme. Elle se consume de chagrin, et si cela durait, elle n'en aurait pas pour longtemps. Sa tête a toujours été un peu faible, vous le savez, et elle ne veut rien entendre. André paraissait profondément découragé. Le vicaire mangeait, buvait d'une manière machinale, moins par appétit que pour cacher son trouble. « Mais raconte-moi tout au long, dit-il, comment les choses se sont passées. Nous verrons ensuite le parti que nous devons prendre. Qu'as-tu fait depuis que tu nous as quittés avec tant de mystère ?» « Oh, j'ai commencé par rejeter le froc, » répondit le jeune homme, dont les traits s'éclaircirent un peu à ce souvenir. « Voyez-vous, mon révérend, quand Maria m'a appris que j'étais un orphelin à porter Dieu sait d'où, ce fut pour moi comme une vie nouvelle. Il me sembla que j'étais tout à coup délivré des chaînes et des liens brûlants qui me torturaient et que j'avais traîné jusque dans ma cellule. » Car même au tribunal de la pénitence, ma langue n'a jamais pu exprimer ce que j'ai souffert pendant plusieurs années à cause de Moïdie. Oh, si un autre l'avait épousée, je n'y aurais pas survécu. Je savais fort bien que pour moi, son frère, cet amour était un péché mortel, et pourtant je ne pouvais l'arracher de mon cœur. Il était plus fort que ma volonté, plus fort que ma religion, que le souvenir de ce que vous m'aviez enseigné, de ce que j'avais lu moi-même dans les livres saints. Mais quand je sus qu'elle n'était pas ma sœur, une joie folle s'empara de moi. Je me dis qu'elle deviendrait ma femme, quand bien même l'empereur voudrait nous séparer. Et après son départ, je me mis à sangloter, puis à chanter si fort que l'on aurait dû m'entendre de mes rangs. J'avais à régler des affaires, j'écrivis aussi à Rosine, et enfin la nuit se passa. Et dès que le jour parut, je descendis, et j'emmenai la pauvre enfant, qui ne se doutait de rien. Pendant les premières heures de marche, je conservais tout mon calme et ne lui parlais d'autre chose que de notre prétendu pèlerinage. Mais comme nous arrivions au haut de la montagne, et qu'elle me demandait avec une curiosité croissante dans quelle église nous devions nous rendre, je la fis asseoir sur la mousse, je me retirai derrière un rocher, et lorsque je revins auprès d'elle, je portais non plus la robe de capucin, mais les vêtements avec lesquels j'avais quitté Goyenne, car je ne les avais pas encore envoyés à France. Elle rit de bon cœur, prétendit que je lui plaisais beaucoup mieux ainsi, et nous mangeâmes ensemble les petites provisions que j'avais emportées. Cependant, ma joie et le changement de mes manières l'étonnaient. Elle devint d'abord silencieuse, puis elle me pressa de questions, et je lui avouai que notre pèlerinage avait pour but non une chapelle, mais un pays éloigné où je l'emmenais comme ma femme. Elle fut alors saisie d'un grand effroi et fondit en larmes. Je la calmai par de bonnes paroles, m'efforçant de garder moi-même mon sang-froid, car je craignais le retour de ses anciennes crises nerveuses. Je lui expliquai qu'il n'était pas possible de retourner à Méron, qu'on s'opposerait à notre mariage et qu'on nous renverrait de Pilate à Hérode sans faire droit à nos demandes. Notre disparition causerait beaucoup moins de scandales et de rumeurs, et si plus tard le mal du pays nous prenait, si nous revenions dans notre maisonnette, il faudrait bien que chacun acceptât les choses comme elles seraient. Pense, ajoutai-je, au vieux Yotzer et à Franz, qui t'a demandé en mariage. Quelle sera leur fureur quand je me présenterai devant eux en disant « Moïdi est à moi, et je ne la rendrai jamais. » Ah, pense à la tante Anna, à la ville entière, qui si longtemps nous a regardés comme frères et sœurs. On s'indignera, on fera appel à l'autorité, à tous les diables. Enfin, pour achever de la convaincre, je lui demandais si déjà il n'était pas trop tard, quand bien même Franz lui plairait plus que moi, pour retourner sur nos pas et nous séparer à jamais. Elle ne résista pas davantage, se jeta dans mes bras et me répondit au milieu de ses rires et de ses larmes qu'elle n'avait pas d'autre volonté que la mienne. Elle m'aida ensuite elle-même à faire rouler de grosses pierres sur le froc, afin que personne ne pût le découvrir et suivre nos traces. Ravis de notre solitude, nous passâmes le reste de la journée à errer dans les montagnes. Nous tournions souvent nos regards vers le point de l'horizon où devait être Méron, et nous songions avec un plaisir malin à la déconvenue de Franz, qui regagnait son logis sans fiancée et allait être l'objet des railleries de tous. Je pensais aussi à vous, mon révérend, qui me blâmeriez peut-être, et à ma marraine et à Roselle, qui ont toujours été si bienveillantes pour moi. Mais la tristesse que me causait ce souvenir ne dura pas longtemps. Je voyais près de moi Maria, Je pouvais la chérir, lui consacrer ma vie, et elle ne repoussait pas ma tendresse. Si vous saviez, mon révérend, ce qu'éprouve celui qui erre tout seul avec son trésor sous le ciel libre, si vous aviez pu goûter cette joie, surtout après de longues souffrances, vous ne seriez pas un juge impitoyable et vous nous pardonneriez notre bonheur qui n'a pas duré longtemps. Il se tut de nouveau et regarda tristement devant lui, car il n'osait porter ses regards sur le vicaire. Celui-ci éloigna son assiette, poussa un profond soupir et remplit de nouveau le verre pour le présenter à son pénitent. Après avoir bu, André continua du même ton monotone et découragé. Nous passâmes la première nuit dans un chalet. Le pâtre nous offrit un souper et ne nous demanda pas qui nous étions, car il devinait facilement ce qu'il y avait entre nous. Il nous promit aussi de ne dire à âme qui vive qu'il nous avait reçus dans sa cabane. Le lendemain, nous nous dirigeâmes vers les hautes montagnes, toujours plus épris, toujours plus heureux. Le pays m'était complètement étranger. Je savais seulement qu'en allant vers l'ouest, nous arriverions en Suisse et que là, chacun a la liberté de vivre à sa guise. Je ne craignais pas non plus qu'on nous demandât notre passeport à la frontière. Nous suivions la crête des montagnes, dont l'escarpement est si rapide que les chasseurs eux-mêmes n'osent s'y aventurer. Le troisième jour, nous atteignîmes un rocher à pic sur lequel on avait dressé une croix avec l'image du Sauveur. Oh, la sculpture était grossière. Un pâtre, sans doute, l'avait faite avec son couteau. Mais cela importait peu. Pendant que Moïdi, silencieuse et satisfaite, contemplait la vue qui de là s'étendait devant elle, je lui pris la main et m'agenouillai avec elle devant la croix. Nous priâmes d'abord ensemble, puis elle voulut se relever, mais je la retins. « Reste encore à genoux, lui dis-je, ce n'est pas fini. » Alors je commençai à réciter en latin les formules du mariage. Je lui retirai du doigt son anneau d'argent et je mis le mien à sa place. Je posai aussi la main sur sa tête, pendant que je prononçais la bénédiction nuptiale. Il faut bien s'aider soi-même, pensais-je. On peut endoyer un enfant lorsqu'il y a danger de mort. Pourquoi ne pourrait-on en faire aussi des mariages d'urgence qui seraient plus tard ratifiés à l'Église? Moïdi le croyait sans doute comme moi, car elle resta dévotement agenouillée, murmurant avec ferveur quelques prières tout le temps que dura la cérémonie. Quand je fus au bout de mon latin, je l'embrassai tendrement et je lui dis « Maintenant, je suis ton mari, tu es ma femme, et la mort seule doit nous séparer. » Elle me répondit par un signe de tête. Son cœur souriait dans ses yeux. Nous nous relevâmes singulièrement émus par le silence solennel qui nous entourait. Un immense horizon s'ouvrait devant nous. Nous apercevions au loin des villes, des villages, des rivières, et personne n'était auprès de nous. Personne que le bon Dieu, en présence de qui nous nous étions jurés fidélité jusqu'au tombeau. Vous connaissez Moïdi, mon révérend. Vous savez qu'elle rit plus volontiers qu'elle ne pleure, et que pour son âge, elle a peut-être dans l'esprit un peu trop de folies enfantines. Eh bien, pendant toute la journée de nos noces, nous n'avons presque pas ri. Nous nous promenions sous le clair soleil aussi sérieusement que si la montagne avait été une grande église. Seulement, Moïdi cueillait des fleurs en marchant. Elle me mit un bouquet à la boutonnière et tressa pour elle une petite guirlande. Comme nous avions encore de l'argent, nous allâmes dans le chalet le plus proche et nous demandâmes au pâtre de nous servir ce qu'il avait de meilleur. Rien ne vint troubler le bonheur de cet heureux jour. Ni elle ni moi ne pensions à ce que nous avions souffert, à ce que l'avenir nous réservait peut-être. Tout cela nous revint à l'esprit quand notre argent fut près de s'épuiser. Nous étions encore loin de la Suisse, car nous errions à l'aventure ne suivant aucune route. Le premier soir où nous trouvâmes nos poches vides, fort embarrassés de nous procurer un gîte pour la nuit, j'aperçus une ferme et au fond de la cour un fenil. J'y grimpai avec Moïdi, mais au lieu de repartir le lendemain, nous restâmes 6 mois. Oui, la ferme appartenait à une veuve qui la faisait valoir avec 2 valets et 2 servantes. Quelque temps auparavant, elle avait épousé son garçon, mais il s'était tué en fendant du bois, et la fermière portait son deuil comme elle avait fait pour son premier mari. Je lui contai que, ayant blessé un Italien, j'avais dû m'enfuir et que ma sœur, je donnais Maria pour telle, parce que la fermière aurait refusé de prendre des gens mariés, n'avait pas voulu me laisser partir seule. Et j'ajoutais qu'il ne nous restait pas un kreutzer. La veuve nous offrit d'entrer tous deux dans son service. Rien en ce moment ne pouvait venir plus à propos. Nous nous empressâmes d'accepter. Seulement, Moïdi me reprocha plus tard de n'avoir pas avoué qu'elle était ma femme, et j'eus grand-peine à obtenir mon pardon. Nous demeurâmes cependant, et l'été se passa. Nous étions bien traités, car la fermière avait jeté les yeux sur moi, comme il me fut facile de le remarquer en plusieurs occasions. Elle me choisit pour son premier valet, afin de me favoriser par la suite encore davantage. Je la laissais faire, me réservant de dire non quand il le faudrait. Mais Moïdi devint tout à coup si triste que je n'eus plus un instant de repos. Je fauchais depuis une semaine environ dans une prairie située assez loin de la maison, quand je vis venir ma femme qui, le visage bouleversé, se jette à genoux et me conjure les mains levées au ciel d'avoir pitié de sa douleur. Elle me dit qu'elle ne peut vivre avec le péché qui charge sa conscience, qu'elle porte un enfant dans son sein, et que cette nuit même, sa mère lui est apparue en lui adressant ces paroles terribles. « André est cependant mon fils, son enfant qui est aussi le tien, sera maudit pour toute l'éternité. » Vous pouvez vous imaginer, mon révérend, combien je fus effrayé. Et tandis qu'elle restait là, immobile et glacée, une affreuse angoisse s'empara de moi, car je n'avais aucune preuve positive que les choses étaient comme nous l'avions cru jusqu'alors, et que son rêve provenait seulement d'un jeu de l'imagination. « Grand Dieu !» pensais-je, « si pourtant c'était vrai !» Un frisson glacial parcourut mes membres. Ma raison se troubla et, considérant la pauvre femme qui se tordait les mains avec désespoir, je me dis un moment, « le mieux serait peut-être de t'en aller bien loin. » Et arriver devant un précipice, de t'y jeter avec elle en fermant les yeux. Mais je me calmai bientôt, car en réfléchissant, je fus convaincu que Moïdi ne pouvait être ma sœur. Mais cela ne suffisait pas pour consoler la pauvre femme. Elle ne demandait plus à mourir. Cela aurait été d'un double crime à cause de l'enfant. Elle voulait retourner au Kuchelberg afin d'éclaircir les doutes qui la rongeaient. Cette solution me causa un amer chagrin, car je savais bien que notre retour dans le pays causerait bien du bruit et du scandale. Mais chaque jour, le regard de Moïdi devenait plus égaré. Et comme la fermière, qui se doutait de quelque chose, parlait de renvoyer ma sœur, il ne nous restait d'autre parti à prendre que de quitter la métairie et de suivre le rude chemin de la pénitence. L'expiation allait commencer pour nous. Je ne vous fatiguerai pas, mon révérend, du récit de nos souffrances pendant la route. Nous repassâmes par les endroits qui, 6 mois auparavant, semblaient sourire à notre bonheur. Et maintenant, la pauvre femme, dans chaque souffle de l'air, croyait entendre des voix qui la maudissaient. Si nous avions péché en devenant mari et femme sans demander la bénédiction de l'Église, nous en étions bien cruellement punis, moi surtout qui l'avais entraînée et devais répondre pour elle. Nous arrivâmes enfin au sommet de la montagne, près du rocher qui au printemps avait été témoin de notre union. La croix n'y était plus. Une tempête l'avait sans doute renversée. Mais ce fut pour Moïdi un coup cruel. Elle pensait que la sainte image n'était qu'une illusion diabolique au moyen de laquelle l'esprit des ténèbres nous avait précipités dans le crime. Elle tomba dans mes bras sans connaissance, et pendant plus d'une heure, je m'efforçais inutilement de la rappeler à elle. André se tut, et l'on pouvait voir le frisson de la fièvre agiter ses membres au souvenir des angoisses qu'il avait ressenties dans ce moment terrible. L'ecclésiastique s'était levé, il parcourait la chambre à pas lents, épuisait de plus en plus fréquemment dans sa tabatière des cordes de bouleau. Il garda la dernière prise entre le pouce et l'index et contempla longtemps une gravure, seul ornement de sa pauvre demeure, qui représentait la Madeleine dans le désert. Il ne se sentait pas le courage de se tourner vers le malheureux qui lui demandait protection, car l'affaire était grave et il avait peu d'espoir de la mener à bonne fin. « Et où est-elle à cette heure ?» demanda-t-il enfin, avec hésitation. « Oh, dans notre maison du Küchelberg, nous sommes arrivés il y a 2 heures au village de Tyrol. Les paysans nous ont reconnus et nous ont montré du doigt. La nouvelle de notre retour s'est vite répandue. Et tandis que je descendais seul à Laubengasse, chacun se détournait de moi comme d'une bête venimeuse. Moïdi est là-haut, elle attend que je vous l'amène. Si vous n'avez aucune bonne parole à lui dire, tout est fini pour nous. Le désespoir et la folie se montrent déjà dans ses regards, et sa pauvre intelligence ne tient plus qu'à un fil bien léger. Encore une secousse, et rien ne pourra la sauver. Vous en apercevrez peut-être trop tard, mon révérend. » Il se leva comme pour engager l'ecclésiastique à prendre une décision. Celui-ci, néanmoins, demeurait silencieux devant la gravure, dont l'obscurité de la pièce, faiblement éclairée par la petite lampe, ne lui permettait guère cependant d'apercevoir les traits. La cloche de l'église, qui sonnait lentement 8 heures, parut seule lui rappeler qu'il y avait péril à tarder davantage. Il se tourna vers André, lui fit signe qu'il allait revenir aussitôt, et en portant la lumière, il descendit l'escalier. Quelques minutes après, le digne vicaire revint tout essoufflé, tenant sous son bras une bouteille de vin paillet. Il était suivi de la servante qui apportait de nouveaux verres. « Vois, dit-il à André, qui le regardait d'un air impatient et préoccupé. C'est là le véritable consolateur. Avant de chercher à relever autrui, il convient de raffermir notre propre courage. Allez boire, mon pauvre enfant. Tu n'as pas oublié ce cru-là, j'en suis sûr. Depuis 10 ans, il est devenu un peu sec, mais il n'est pas moins bon pour cela. Et le visage plus calme, il éleva la liqueur dorée à la hauteur de la lampe pour mieux admirer le limpide éclat. Puis il choqua cordialement son verre contre celui de son pénitent. « Gaudete in domino semper !» reprit-il, car la vue de la généreuse boisson exerçait déjà sur lui son action réconfortante. « Ainsi bois, mon ami, et nous remplirons après un flacon pour la malheureuse femme, car elle doit en avoir besoin. » André ne répondit rien. Le vicaire allait et venait dans la chambre comme un général qui, sous la tente, médite le plan d'une bataille. De temps en temps, il avalait une copieuse gorgée de son vin favori et chaque fois faisait retentir bruyamment le verre en le reposant sur la table. Quand la bouteille fut à demi vidée, il saisit le violon suspendu à la muraille et commença une vieille cantate italienne brodée de nombreuses fioritures qu'il avait invariablement coutume de jouer dans les jours mémorables. Ce morceau avait aussi l'approbation du chat qui sauta sur la table en faisant entendre de joyeux ronrons, tourna autour de la lampe en regardant André avec ses grands yeux verts comme pour l'engager à jouir aussi de cette belle musique. Mais l'impatience brûlait le sang du jeune homme, et s'il était retenu par le respect et par la conscience de sa faute, il aurait interrompu l'ecclésiastique pour lui rappeler que Maria comptait les minutes en attendant ses consolations. Enfin, l'ecclésiastique déposa son instrument, essuya son front avec le revers de sa manche et endossa rapidement sa soutane. La servante arriva, versa rapidement le reste du terlanaire dans un petit flacon qu'elle remit à André, et les deux hommes sortirent ensemble. Le silence s'était fait dans la Laubengasse. On n'entendait plus que les chants et les rires des journaliers italiens attablés dans le cabaret, rire entremêlé parfois d'imprécations et de querelles. Les veilleurs étaient assis auprès de leur guérite, enveloppés dans leurs manteaux. Lorsqu'ils arrivèrent sur la place où s'élève l'église, le vicaire dit à son compagnon « Bon, en avant, mon fils, j'ai à entretenir, monsieur le doyen, d'une affaire pour laquelle ta présence est inutile. » Je te rejoindrai dans une demi-heure. Rassure-toi, et rassure en attendant Maria, et annonce-lui de ma part que tout ira bien. » Il tendit à André sa main que celui-ci baisa respectueusement. Quand le jeune homme se fut éloigné, l'ecclésiastique s'arrêta quelques minutes devant la porte du presbytère avant de se résoudre à entrer. Mais le terlaneur lui vint en aide, et si son cœur battait en arrivant dans la chambre de son supérieur, c'était seulement à cause de la pente roide de l'escalier. Ce qu'il dit au curé ce soir-là, et ce qui lui fut répondu, personne n'a jamais pu le savoir. Seulement, lorsqu'il redescendit un quart d'heure plus tard, son attitude avait bien changé. L'influence du terlaneur avait fait place à un extrême abattement, et il poussait de profonds soupirs tout en gravissant la rue tortueuse pour se rendre au Kuchelberg. Une faible lueur s'échappait de la maisonnette. Le vicaire soupira plus profondément encore et fut tenté de retourner sur ses pas. Mais s'il ne pouvait secourir les pauvres jeunes gens, il voulait au moins ne pas les laisser seuls dans leur affliction. Il ouvrit donc, sans frapper, la petite porte basse et franchit le seuil. Maria était assise sur le lit dans la cuisine où la mère avait rendu le dernier soupir. André, agenouillé devant le foyer, soufflait le feu afin de faire cuire la polenta. La jeune femme, silencieuse et en apparence insensible, gardait encore son manteau de voyage comme si elle n'était pas dans sa propre demeure et ne pouvait trouver nulle part ni repos ni patrie. Quand l'ecclésiastique s'approcha, elle parut vouloir rassembler ses souvenirs, fit un mouvement pour se lever, retomba sans force et cacha son visage dans ses mains sans prononcer une parole. Maria, dit le vicaire, est-ce que tu ne me reconnais pas? Elle répondit par un signe de tête affirmatif. Mais ne veux-tu pas me regarder? N'as-tu plus de confiance en moi? Elle restait toujours silencieuse, mais ses membres étaient agités d'un tremblement convulsif. André, reprit le prêtre, va dans la pièce voisine. J'ai besoin d'être seul avec Moïdi. Le jeune homme obéit aussitôt. Mais au lieu de se retirer dans la chambre, il sortit pour respirer plus librement. Il étouffait dans cette maison où il avait tant souffert. Maintenant, ma fille, continua l'ecclésiastique, prends courage et écoute ce que j'ai à te dire. Vous avez en effet péché l'un et l'autre, et si vous êtes rudement frappés, vous devez vous soumettre au châtiment que le Seigneur vous inflige. Mais votre faute n'est pas si grave que le pardon soit impossible. Et quant au doute qui te tourmente, il m'est permis, oh le ciel en soit loué, il m'est permis d'en délivrer ton âme. Oui, je te l'affirme sur mon salut éternel, André n'est pas le fils de ta mère. L'Église peut, en vous bénissant, faire de vous des époux chrétiens. Ainsi, console-toi, relève la tête, et n'assiste plus André de tes folles terreurs. Elles ne servent qu'à l'envenimer le mal et sont inspirées par le mauvais esprit. Il pensait que ces paroles allaient la calmer et qu'enfin elle sortirait de sa torpeur. Mais elle demeura immobile, comme si elle n'avait rien entendu. Il s'approcha d'elle plus près encore, et avec une douce violence écarta de son visage ses mains qui étaient froides et humides. Il vit alors que ses traits enfantins et doux avaient subi, dans l'espace de quelques mois, une altération profonde. Ses yeux étaient fermés, ses sourcils contractés par l'effet d'une lutte intérieure, ses lèvres à demi ouvertes et ses joues d'une pâleur mortelle. Pendant que le vicaire la contemplait avec compassion, une subite rougeur remplaça la blancheur mate de sa figure. Réponds-moi, Maria, je t'en prie. Je ne puis te venir en aide si j'ignore la cause de ton chagrin. Ne te suffit-il pas de savoir qu'André n'est pas ton frère? Elle secoua la tête et ouvrit les yeux d'un air hagard qui effraya le prêtre. Mais je sais bien qu'il l'est, répliqua-t-elle d'une voix sourde. La mère est sortie de son tombeau pour le dire. Elle nous trompait quand elle parlait de s'adresser au tribunal, à l'empereur même. Mais on ne trompe pas le Seigneur. Vous prétendez qu'André n'est pas mon frère, mais alors, où donc est sa mère? Mais comment ne se montre-t-elle pas aujourd'hui qu'il est malheureux? Non, non, personne ne peut nous secourir, personne ne nous unira que la mort. Maintenant, laissez-moi. Que venez-vous faire ici? Je voudrais seulement que l'enfant. Elle s'arrêta et se mit à trembler de nouveau. Et tout à coup, frappée d'une idée subite, Est-il vrai, dit-elle avec un rire effrayant, que je doive aller à l'église pour recevoir votre bénédiction? Ah, s'il en est ainsi, la fête sera belle, vous verrez. Quand vous élèverez la voix pour demander si personne ne connaît d'empêchement au mariage d'André avec Moïdie, mais la mère apparaîtra devant le grand autel et déclara, en se moquant, qu'elle vous a trompé et que vous ne devez pas nous unir. Oh, cela arrivera, je le sais bien. Maria, répondit l'ecclésiastique d'un ton d'autorité, mais tu n'es que l'enfant ignorante. Et tout ce que tu débites là est une illusion du malin esprit pour t'entraîner à des péchés plus grands encore. Je connais le père et la mère d'André, et je te les nommerai si cela ne m'était pas défendu par ceux à qui je dois obéissance. » Elle fixa sur lui ses yeux dilatés par l'émotion et remua les lèvres sans parvenir à prononcer une parole. Mais on lisait sur son visage une supplication si douloureuse qu'il se sentit profondément troublé et détourna la tête pour ne pas fléchir. La jeune femme fit entendre un éclat de rire plein d'amertume et de dédain. « Vous voyez bien, s'écria-t-elle, vous n'osez pas me regarder en face. André vous aura supplié de me dire ces mensonges, il voudrait tant me voir heureuse comme autrefois. Mais personne ne saurait nous venir en aide. Si vous connaissiez ses parents, vous iriez les trouver et vous leur diriez qu'on nous montre du doigt que nous sommes malheureux et désespérés. Vous ne pouvez pas faire cela, je le sais, car je connais, moi, la mère d'André. Elle m'a parlé en rêve, et l'on ne me trompera pas. » Le vicaire vit bien que tout raisonnement serait superflu. « Écoute, dit-il, oh, je n'ai pas le courage de te laisser plus longtemps dans un si misérable état. Je vais t'apprendre ce que je sais, ce qui est vrai, aussi vrai qu'il y a dans ce ciel un Dieu miséricordieux. Mais jure-moi d'abord de ne répéter mes paroles à personne, à André moins qu'à tout autre. Car en te confiant ce secret, je manque à mon devoir, à mon obéissance ecclésiastique. Mais si je me taisais, ton esprit qui est profondément troublé deviendrait plus malade encore. Veux-tu me promettre par le Saint-Sacrement de garder sur cette révélation un silence absolu ? Elle fit trois fois un signe de tête affirmatif, et ses yeux s'éclairèrent pour la première fois d'une faible lueur d'espérance. « André n'a aucun besoin d'une telle confidence, » continua le prêtre. « Sa conscience n'est pas troublée. Il te conduira sans crainte à l'église. Et sa mère aussi sera présente à votre mariage. Elle implorera en silence sur vos têtes la bénédiction céleste. Mais ce ne sera pas le spectre de Maria Ingram. Ce sera... » Et il se pencha tout près de son oreille. La tante de Rosine, Anna Hirzer, qui a tenu André sur les fonts de baptême, c'est elle, mon enfant, qui priera pour vous, et qui certes ne s'opposera pas à votre union. Il avait murmuré ces paroles à la hâte, comme effrayé du son de sa propre voix. Moïdie resta silencieuse et le regard fixe. On eût dit que la révélation de ce secret ne faisait aucune impression sur elle. « Puisque je t'en ai tant appris, ma fille, » continua le vicaire, « il faut que tu saches aussi comment les choses sont arrivées, sans quoi tu ne croirais peut-être pas à ma parole. Tu te souviens que ta mère... rapporta le petit André après un séjour de plusieurs mois qu'elle fit dans un chalet sur la montagne. C'était là qu'Anna Hirzer l'avait mise au monde. Un an auparavant, un officier, blessé dans une campagne contre Napoléon, avait quitté l'Allemagne pour se rendre à Innsbruck, et de là au village de Tyrol, dont l'air pur devait, pensait-il, achever sa guérison. Il rencontrait souvent la tante Anna dans la rue. Il lui parla et parvint à lui plaire, car c'était une nature vive, chevaleresque, et depuis n'abandonnait pas aisément ce qu'il avait une fois résolu, exactement comme André dès son enfance. Mais cette liaison avait un côté dangereux. L'étranger, mais tu m'écoutes, Maria ? Demanda-t-il en voyant la tranquillité singulière de la jeune femme. Elle fit signe que oui, puis elle leva les deux mains d'un air suppliant, comme pour le prier de continuer son récit. Cet officier, du reste, était brave, noble et riche. Il voulait épouser celle qu'il aimait. Malheureusement, il appartenait à la religion luthérienne. Il refusait d'entendre parler de notre sainte Église. Et la tante Anna pleurait nuit et jour en pensant qu'il serait damné. Et voyant que ses larmes et ses prières ne pouvaient le fléchir, elle alla trouver son confesseur qui lui donna le conseil d'offrir à Dieu le sacrifice de son amour et de se dérober par la fuite à son séducteur. Elle a l'âme naturellement droite et pure, aussi quitta-t-elle Innsbruck dans le plus grand secret. Et quand l'étranger a pris son départ, elle était déjà chez son frère au château de Goyenne. Joseph approuva beaucoup sa conduite, car, tu le sais, les Hirtshals ont été de tout temps pleins de zèle pour la foi, et le vieil Aloïs avait coutume de dire qu'il aimerait mieux se couper la main droite que de laisser un membre de sa famille se perdre avec les hérétiques et les ennemis du Christ. Mais les forces d'Anna ne répondaient pas à son courage, et au bout de quelques jours, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Mangeait à peine, errait silencieusement dans la vieille maison, et je pensais qu'elle allait s'éteindre comme une lampe sans huile. Dieu sait ce que j'aurais donné pour que les pauvres gens puissent être unis. J'en parlais avec monsieur le doyen, mais l'étranger voulait que ses enfants fussent luthériens. On ne devait pas sacrifier le salut de ces innocents petits êtres. Et Anna elle-même reconnut la nécessité de rompre pour toujours. Une semaine environ se passa ainsi. Un matin, Joseph arrive, rouge de fureur et d'indignation. Il m'apprend que l'hérétique maudit a découvert la retraite d'Anna et qu'il habite dans le voisinage, le manoir de Trautmannsdorf, dont le seigneur est un de ses amis. Qu'allait-il se passer? Alors je retourne chez monsieur le doyen, je vais chez Anna, je vais chez l'officier. Oh, toute ma vie, je me rappellerai ces jours de fatigue et d'angoisse. Nous donnions à chacun nos soins, nos consolations et nos conseils, et j'espérais presque, d'après l'accueil respectueux de l'étranger, que nous ramènerions à l'église cette brebis égarée. Hélas, je me trompais grandement. Cet homme audacieux et hautain sut pénétrer au château de Goyenne et, malgré la vigilance de Joseph, il revit sa fiancée. Leurs entrevues demeurèrent secrètes pendant près d'un mois. Mais un matin, comme l'étranger voulait profiter des dernières ombres de la nuit pour se retirer et qu'il descendait par la fenêtre, cédant des rameaux épais d'un pin qui s'élevait près de la muraille, Hirtshals, levé plus tôt que de coutume, l'aperçut et comprit tout. Une lutte sauvage s'engagea entre eux. De sa fenêtre, la tante Anna dut voir son frère terrasser son amant et le fouler aux pieds dans un transport de rage. L'étranger avait en tombant heurté contre une pierre et s'était blessé si grièvement qu'il eut bien de la peine quand vint le jour à se traîner jusqu'au village de Trautmann. Il s'évanouit en arrivant chez le comte, et quand il eut repris ses sens, il voulut être conduit à Venise, et 3 semaines ne s'étaient pas écoulées que l'on reçut la nouvelle de sa mort. Le vicaire garda quelques instants le silence, puisa dans sa tabatière de bouleau une large prise de tabac et reprit, comme en se parlant à lui-même, « Paix soit à son âme. Oh, c'était un hardi cavalier, un noble caractère, beau de taille et de visage. André lui ressemble. Il est seulement un peu plus petit et il a les yeux de sa mère. Hélas, pourquoi faut-il qu'il y ait entre les hommes une telle diversité de croyances? Pourquoi les uns naissent-ils dans l'erreur, tandis que les autres jouissent des lumières et des bienfaits de la vraie religion? Mais les choses sont ainsi, et les hommes dont la vue est si courte doivent se soumettre sans murmure. On me chargea de porter à Anna la lettre de Venise, et ce fut une triste démarche, je t'assure, ma fille. Aucune mauvaise parole ne fut échangée néanmoins entre le frère et la sœur. Tous deux étaient coupables, tous deux avaient besoin de pardon. Lorsque l'été arriva, la tante Anna dit qu'elle allait partir pour Bautzen, mais elle se rendit secrètement au chalet près de ta mère. Et à l'exception de nous 5, personne n'a jamais su ce qui était arrivé. Personne à Traumansdorf ne découvrit jamais le nom de la jeune fille que l'étranger avait été voir pendant cette nuit fatale. Quand Maria Ingram ramena l'enfant avec elle à la maison de Küchelberg, Anna fit son testament. Elle légua la moitié de son bien à notre église, l'autre à celle d'Innsbruck, où elle avait pour la première fois rencontré son fiancé, et où l'on dit chaque année un grand nombre de messes pour le repos de son âme. Voilà, mon enfant, ce que j'avais à t'apprendre. Mais comme on ne saurait rien changer à ce qui s'est passé, il vaut mieux aujourd'hui ne pas réveiller ces tristes souvenirs. André, d'ailleurs, ne peut avoir la pensée d'attaquer le testament et de priver son père des prières de l'Église. Il est donc préférable qu'il ne connaisse rien de cette histoire. Tu te rappelleras, mon enfant, que tu m'as promis le secret. Maintenant, aie bon courage. La Sainte Mère de Dieu priera pour vous, et vous obtiendrez, après tant d'épreuves, le pardon de vos péchés, une vie paisible et agréable au Seigneur. Amen. » Il avait prononcé ces dernières paroles d'une voix plus haute et d'un ton solennel. Il attendait que la jeune femme lui adressât une question ou lui fît des excuses. Mais elle demeurait complètement immobile, les yeux fermés, la tête appuyée contre la muraille, les mains croisées sur son sein. L'expression de douleur et de sombre désespoir qui contractait son visage quelques instants auparavant avait disparu. Ses blonds cheveux se jouaient sur son front éclairci. Un souffle paisible s'échappait de sa poitrine. Bientôt, sa tête alourdie s'inclina sur son épaule et ses mains entrelacées retombèrent sur ses genoux. Le récit du vicaire, en dissipant ses angoisses, avait bercé la pauvre enfant comme un chant de nourrice, et pour la première fois depuis bien des jours de fatigue et de maladie, elle goûtait un sommeil réparateur.